Bonjour à tous et merci à vous tous d'être là et merci aux organisateurs également. Donc, je vais vous parler de l'œuvre de Marianna, de Dacia Maraini, pardon, La Lunga Vita di Marianna Okria, qui a été publiée en 1990 et qui nous plonge dans la Sicile aristocratique du 18e siècle. À travers le personnage de Marianna, une jeune femme sourde-muette, mariée de force à son oncle, le roman met en lumière les mécanismes d'oppression patriarcale qui enferment les femmes dans des rôles figés, notamment celui de la maternité. Ce roman est aussi un texte de résistance. Il explore comment une femme peut se libérer des modèles imposés, non par la révolte directe, mais par le silence, l'introspection et surtout la pensée. Le silence devient ici non pas un enfermement, mais une stratégie d'émancipation. Dès lors, nous pouvons poser donc la question suivante. Comment Dacia Maraini, à travers le personnage de Marianna, déconstruit-elle les stéréotypes liés à la maternité et propose une vision alternative de cette expérience? Pour y répondre, je vais structurer cette réflexion en trois temps. Tout d'abord, je vais voir comment le roman critique la maternité traditionnelle à travers la figure passive et aliénée de la mère de Marianna. Deuxièmement, je vais analyser comment Marianna transforme son silence en un espace de résistance et de reconquête de soi. Et enfin, je vais analyser comment elle redéfinit la maternité comme une expérience choisie, affective mais non sacrificielle. Dans La Lunga Vita di Marianna Okria, Dacia Maraini dresse d'abord le portrait d'une maternité institutionnelle sacrificielle incarnée par la mère de Marianna. Celle-ci n'est ni guide ni refuge affectif. Elle est au contraire une femme soumise, dépourvue de toute subjectivité, prisonnière d'un rôle social qui la vide de sa substance. Dès les premières pages, Marianne, encore enfant, rejette cette figure maternelle qui ne lui inspire ni amour ni confiance. C'est pour ça que dans le roman, l'autrice écrit « Non diventerò mai come lei, si dice, mai, neanche morta ». Cette phrase d'une radicalité frappante marque le point de départ du chemin d'émancipation de Marianne. Elle refuse de devenir cette femme sans voix, résignée à n'exister qu'en tant que mère et épouse soumise. La mère de Marianne est décrite comme une femme éteinte, presque absente, dont la maternité se résume à une présence silencieuse et fonctionnelle. À ce sujet, on peut lire sur sa mère, talmente timorosa di essere considerata di troppo da mettersi in un angolo da sola. Troppo pigra per prendere una decisione qualsiasi, lasciava fare agli altri. Il suo posto ideale era alla finestra, con una cioccolata calda ogni tanto. Ce tableau souligne l'inertie affective du personnage. Elle ne transmet rien d'autre que la soumission et la docilité. On est face à une maternité anesthésiée, vidée de toute sa force créatrice, de toute relation vivante. Maraini insiste sur la dimension idéologique de cette maternité. Elle n'est pas naturelle, mais imposée par un système patriarcal. Comme le dit Marianne elle-même, elle a toujours senti que sa mère avait dû un jour renoncer à être une personne. Ha scelto di farsi morta per non dover morire, elle écrit à ce sujet. Cette phrase résume l'aliénation intériorisée de nombreuses femmes de l'époque. La mère survit en s'effaçant, elle s'abandonne à ses fonctions sans jamais s'interroger sur leur sens. On peut retrouver ici les idées de Luisa Muraro qui évoque dans l'ordre symbolique de la mère une présence sans sujet, des mères omniprésentes dans les tâches telles que enfanter, nourrir, soigner, mais absentes symboliquement. Dans le roman, à ce juste titre, on peut lire Sposare, figliare, fare sposare le figlie, farle figliare e fare in modo che le figlie sposate facciano figliare le loro figlie, che a loro volta si sposino e figlino. Aucune parole ici n'est transmise, aucune mémoire féminine n'est partagée. L'humanité féminine a perdu sa propre originalité à cause de sa relation avec l'homme. Ainsi, les femmes intériorisent les exigences masculines au point de perdre leur originalité féminine. Chez Marianne, cette absence génère non pas une répétition, mais une rupture. Là où sa mère perpétue le modèle maternel hérité, Marianne aspire à un autre modèle. Elle observe, elle lit, elle réfléchit. Très tôt, elle choisit de ne pas reproduire ce schéma de soumission. De plus, nous pouvons lire sur le rapport mère et fille. La madre stringesse la figlia con un gesto di pigra tenerezza. Marianne vede le labbra che si muovono, ma non vuole fare lo sforzo di indovinarne le parole. Ce passage illustre la distance émotionnelle entre mère et fille. Le geste maternel est vide. Il ne crée pas de lien. Marianna n'a même pas envie de comprendre ce que sa mère dit. Il n'y a ni complicité ni affection réelle, juste un automatisme sans chaleur. Ainsi, dès ce premier axe, Maraini pose une critique très forte. La maternité peut être une instance de reproduction de la domination et non un lieu d'épanouissement. Le personnage de la mère est à la fois victime et vecteur d'un système patriarcal qui instrumentalise les femmes au nom de leur rôle maternel. Ce refus du modèle hérité constitue l'ancrage de toute l'évolution de Marianne. Elle ne veut pas devenir un corps sans parole, une femme vidée de sens. Elle cherche un autre chemin. Après avoir rejeté la figure maternelle imposée, Marianne va trouver dans son silence non pas une faiblesse, mais une force de résistance. Sourde muette depuis un traumatisme subi dans l'enfance, elle transforme cette condition en un espace intérieur de liberté. Contrairement à sa mère, dont le silence est le fruit de la résignation, celui de Marianne devient un choix stratégique existentiel. Il silenzio sarà impadronito di lei come una malattia, o forse come una vocazione. Cette phrase montre que le mutisme de Marianne est une forme de protection, un moyen d'échapper au langage des hommes, un langage qui impose, qui opprime, qui efface la subjectivité des femmes. En se tenant hors du discours social, Marianne se protège de cette assignation. Son silence devient un lieu de pensée, d'observation, de recul critique. Elle n'entre pas en opposition directe avec le patriarcat, mais elle dérobe son esprit à ses injonctions. Ce silence est un outil de survie et d'autonomie. Ce mutisme créé par le trauma qui se développe au fur et à mesure dans le roman jusqu'à ce qu'elle se rappelle que son oncle à qui elle a été mariée est la cause de son silence dû à un viol subi pendant l'enfance. On est ici face au concept de croissance post-traumatique qui désigne le processus par lequel une personne, après avoir vécu un traumatisme profond, parvient à se transformer positivement en développant une nouvelle perception d'elle-même, du monde et de ses relations. Dans la Lunga Vita di Marianne Nocria, Marianne, bien que marquée par un passé de violence sexuelle et de silence imposé, incarne ce processus. À travers l'éducation, la lecture et une quête d'indépendance intellectuelle et affective, elle dépasse son statut de victime pour devenir sujet de sa propre vie. Son parcours témoigne d'une résilience silencieuse qui illustre avec force les mécanismes de reconstruction identitaire propres à la croissance post-traumatique. Pourtant, derrière cette figure apparemment effacée se déploie un itinéraire intérieur complexe, où le trauma, d'abord enfoui, refait surface, et où l'introspection devient le vecteur d'une éthique du cœur. Le cœur, dans sa dimension philosophique et psychologique, désigne un mode de relation fondé sur l'attention, l'écoute et la prise en charge de la vulnérabilité. Pour Marianne, il ne s'agit pas seulement de prendre soin des autres, de ses enfants ou de ceux qui souffrent autour d'elle, mais aussi fondamentalement de prendre soin d'elle-même. Le travail de mémoire qu'elle engage progressivement en renouant avec les bribes de son passé, avec la vérité de la violence subie et une forme de soin psychique. En cela, il illustre ce que Muriel Salmona décrit comme un processus de reconquête de soi. Se réapproprier son histoire, retrouver une continuité psychique après la rupture causée par la mémoire traumatique, constitue une étape essentielle de la résilience. Le silence imposé par Marianne, renforcé par sa surdité, fonctionne d'abord comme un prolongement du trauma. Il la prive d'une élaboration consciente de la violence vécue. Pourtant, c'est dans ce silence que naît aussi une capacité d'observation et de réflexion hors normes. En l'absence de langage verbal, elle développe une sensibilité accrue à ce qui échappe au discours, les gestes, les regards, les non-dits. Cette hyperperception devient peu à peu une forme d'intelligence affective, une acuité morale, une attention à l'autre qui dépasse la simple empathie pour rejoindre la logique du cœur. De plus, selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, la résilience ne consiste pas à effacer la blessure, mais à lui donner un sens et en faire le point de départ d'une transformation. C'est pour cela que Marianne n'oublie pas le traumatisme. Elle l'intègre, le comprend et en fait un socle d'un engagement éthique. Son introspection ne mène pas à une fermeture sur soi, mais à une ouverture au monde. Elle devient capable de comprendre la souffrance des autres, de s'en faire la gardienne silencieuse. Ainsi, l'évolution de Marianne peut se lire comme un récit de résilience et de réparation. C'est par le soin, la mémoire et l'attention à l'autre que le nœud traumatique se dénoue peu à peu et qu'une nouvelle subjectivité peut émerger. Par ailleurs, Marianne développe une relation intime au savoir. Privée de parole, elle s'ouvre à la lecture qui devient pour elle un espace de reconstruction. Per Marianne, la lecture en a necessità. Cette phrase est puissante, car lire n'est pas un loisir, mais une urgence vitale. La lecture lui permet de se forger une pensée propre, d'analyser le monde qui l'entoure, de comprendre les rapports de pouvoir. Elle fait de la lecture un outil de résistance intellectuelle. C'est aussi par l'écriture que Marianne commence à tisser des liens humains. Elle entretient une correspondance avec un homme qui, pour la première fois, reconnaît sa pensée au-delà de son mutisme. A colei che non parla perché accolga nella sua testa spaziosa questi pensieri che mi sono vicini. Cette dédicace illustre le début d'une reconnaissance symbolique. Marianne n'est plus réduite à son silence. On reconnaît sa capacité à penser, à comprendre, à dialoguer autrement. La parole n'est plus uniquement orale, elle devient écrite, intérieure, subtile. Dans cette optique, Marianna incarne une subjectivité féminine silencieuse mais lucide, qui refuse de parler la langue de l'oppression, mais qui crée un autre langage fait de gestes, d'émotions, de textes. Marianne, en refusant de jouer le rôle attendu de la femme soumise, en cultivant une forme de retrait critique, déconstruit les rôles de genre traditionnels, y compris celui de la mère sacrificielle. Ce silence actif est donc un outil de réappropriation de soi, mais aussi un refus de la transmission mécanique du rôle maternel. C'est pour ça qu'on peut lire « Marianne rifiuta di trasmettere il ruolo materno che le è stato trasmesso ». Ainsi, Marianne n'endosse pas l'héritage maternel reçu par sa mère. Elle ne veut pas perpétuer une maternité faite de renoncement. Au contraire, elle choisit le silence pour penser autrement et faire émerger une autre parole féminine plus libre et plus intérieure. Après avoir refusé le modèle de la maternité alignée transmis par sa mère et s'être reconstruite dans le silence et la lecture, Marianne devient mère à son tour. Mais elle ne se laisse pas définir uniquement par ce rôle. Elle construit une maternité autonome, affective, mais non sacrificielle. Marianne ne rejette pas ses enfants. Au contraire, certaines scènes du roman révèlent une profonde tendresse maternelle. Mais cette tendresse n'efface pas sa propre subjectivité. Concernant son fils, on peut lire: Nessuno al mondo poteva tenerlo in braccio salvo lei. Lo riconosceva ad occhi chiusi quest'ultimo figlio dei suoi 30 anni e lo prediligeva apertamente per quell'amore smodato di cui la faceva oggetto e da cui lei si lasciava rapire. Cette scène de proximité charnelle avec son fils montre une maternité sensorielle, joyeuse, non contrainte. Elle donne, mais elle reçoit aussi. Marianne ne s'abandonne pas à ses enfants. Elle vit la maternité comme une relation réciproque, non comme une fonction biologique. On est ici très loin de la mère de Marianne, décrite comme une femme qui a abandonné son corps et son désir pour se fondre dans le devoir maternel. Sur la mère de Marianne, nous pouvons lire justement: Ha trasferito sui corpi dei figli in trasformazione il proprio corpo, privandosene come se l'avesse perso nel momento di maritarsi. Marianne refuse cette dépossession. Elle ne veut pas que la maternité soit une perte de soi. Elle continue à lire, à penser, à écrire. Elle conserve son autonomie intérieure tout en assumant son rôle de mère. Marianne a choisi donc d'habiter ce rôle maternel sans s'y enfermer, sans l'idéaliser et surtout sans s'y sacrifier. Un passage clé illustre ce tournant dans sa souveraineté corporelle. Marianne ose dire non à son mari, pour la première fois, refusant un acte sexuel imposé. Ora, per la prima volta, guardando in faccia il signor marito zio, riesce a fare un segno di disniego con la testa e lui si paralizza, con il membro rigido, la bocca aperta, talmente sorpreso del suo rifiuto da rimanere lì, impalato, senza sapere che fare. Ce geste est hautement politique. Marianne réaffirme la propriété de son corps, qui jusque-là appartenait au mari, à la tradition et à la fonction reproductive. Elle récupère le droit de choisir, d'exister en tant que sujet. Ce refus du devoir conjugal est aussi un refus de la maternité imposée. Elle ne veut plus que son corps soit instrumental. Elle veut qu'il soit vécu. Enfin, Marianne construit une maternité non normative, en lien avec ses émotions, son rythme personnel, son histoire. Marianne incarne donc une multiplicité de maternités. Elle est à la fois mère, lectrice, femme de pensée et de désir. Elle ne devient pas une sainte ni une martyre. Elle est une femme entière et une mère libre. C'est pour ça que je peux conclure en disant que le roman de Maraini nous offre une critique puissante des normes patriarcales en déconstruisant le mythe de la maternité comme unique horizon féminin. À travers le personnage de Marianna, l'autrice montre que la maternité peut être une expérience vécue différemment, en dehors des injonctions sociales et du sacrifice. Marianna n'est pas une mère absente ni une mère sacrificielle, elle est une mère libre. En cela, elle anticipe les débats contemporains sur la possibilité d'une maternité qui ne soit ni aliénante, ni prescrite, mais choisie et plurielle.